Amen. Il est bon de se retrouver, hein, même pendant les temps de vacances. Merci au Seigneur qui nous donne un petit peu de fraîcheur ce matin. On respire un peu, même si ça va revenir certainement, mais bon, ça nous permet de respirer un peu quand même. Je vais aller direct au but ce matin. Le titre de mon message, c'est Aimes-tu ton frère? Le mot frère s'entend dans le sens large, donc ça peut être une sœur aussi, hein. Aimes-tu ton frère? On va lire dans Genèse chapitre 4, versets 9 à 10. Après la création, vous savez qu'Adam et Ève, bien sûr, ont chuté. Connaissons ce terrible commencement qu'a connu l'humanité avec la faute grave d'Adam et Ève, qui ont désobéi à l'Éternel, et puis s'en est suivi de toute une problématique derrière, et notamment déjà avec leurs deux enfants qui vont connaître des problèmes relationnels, qui vont aller jusqu'à ce que l'un d'entre eux tue son frère. Et Caïn va se cacher. C'est intéressant, hein, de voir que quelqu'un se cache devant Dieu. C'est un peu absurde, mais on le fait tous, hein, on se cache. Mais Dieu nous voit tout le temps, hein. Et l'Éternel va dire à Caïn, on lit ce passage, cet extrait du chapitre 4 de la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et je ne dis pas Amen. Je vais me décaler parce que lui, perturbe. Allez, ça va? Vous me voyez toujours? Caïn va prononcer cette terrible phrase. Suis-je le gardien de mon frère? C'est une réponse terrifiante. Et d'abord, je remarque que c'est incroyable que si tôt dans l'histoire de l'humanité, déjà, il y a un tel manquement de respect vis-à-vis de Dieu. C'est à Dieu qu'il parle, hein. Et il ironise, ouais, suis-je le gardien de mon frère? Et en plus, il vient de faire quelque chose de très grave. Bon, ça, c'est le caractère de l'homme. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous demander comment résonne cette phrase dans nos têtes ce matin, pardon. Suis-je le gardien de mon frère? Nous allons voir que quand on lit la parole, cette phrase, suis-je le gardien de mon frère, n'est pas recevable dans la bouche d'un chrétien. Qui est mon frère? La question, ça peut être, qui est mon frère? D'abord, en introduction de ce message. Jésus utilise aussi, on va le voir, l'expression mon prochain. Le frère, pour moi, c'est mon semblable. Mon semblable, c'est d'abord les membres de ma famille, vous êtes d'accord? Mon semblable, c'est pas l'humanité entière, parce que je ne suis pas appelé à m'occuper de l'humanité entière, ce serait bien trop difficile pour moi. Mais mon prochain, mon frère, ma sœur, c'est celui, celle que le Seigneur met à mes côtés ou sur ma route. Il y a ceux qui sont toujours là et il y a ceux qui sont occasionnellement là, mais comme vous êtes comme moi et que vous ne croyez pas au hasard, à partir du moment où on rencontre quelqu'un, il devient notre semblable, il devient notre prochain, il devient notre frère, notre sœur. Ça paraît incroyable de dire ça, hein? Mais pourtant, c'est ce que les Écritures disent. La famille dans la chair. Famille biologique, la famille spirituelle, ça c'est mes frères, mais aussi mes amis, mes collègues de travail, mes voisins, peut-être les blessés de la route que je rencontre. Ce concept est incroyablement révolutionnaire. Quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. C'est mon frère. C'est mon semblable. Il est ou elle est une créature de Dieu comme moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut dire au sujet de ma famille, suis-je le gardien de ma famille? Suis-je le gardien de mes amis, de mes collègues, de mes voisins? On va voir en trois points en quoi consiste être le gardien de son frère. C'est bien de se poser la question, ça veut dire quoi être le gardien de son frère? Le premier point que j'ai relevé, il est tout simple, je ne vais pas vous surprendre, si vous connaissez la Bible, vous n'allez pas être étonné. Aimer son frère. Aimer son frère. C'est la première chose que Dieu nous demande après nous avoir demandé de l'aimer à lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Et on le lit dans Matthieu 22, 34, 40, et après il ajoute, tu aimeras aussi ton prochain. On lit ensemble. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est quelqu'un qui pose cette question à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Mais voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous aimez votre prochain, vous avez obéi à tous les commandements. Parce que tout découle de là. Ce qui me touche, c'est que Dieu dit que le second est semblable au premier. Il nous demande pas un amour supérieur pour lui que celui de nos frères et sœurs. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Parce que Dieu, il fait pas des catégories, il met pas les choses dans les cases. L'amour qu'il met en nous, par le Saint-Esprit, cet amour puissant qui vient de Dieu, c'est pas, on parle pas de l'amour humain. Si vous appuyez sur votre amour humain pour mettre en pratique ce qu'on va dire ce matin, vous allez échouer, obligatoirement. Mais nous voulons penser à l'amour que Dieu a mis par son Esprit. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains chapitre 5, que l'Esprit de Dieu nous a donné cet amour. Et si cet amour est en moi, il va me pousser à aimer Dieu, il va me pousser à aimer mon prochain. Il n'y a pas de catégorie, j'aime plus Dieu que mon prochain plus que Dieu. Non, cet amour, il se répand autant pour Dieu que pour mon prochain. Amen. Les deux sont liés. Alors bien sûr, dans le contexte du XXIe siècle, siècle individualiste, égoïste, dans ce contexte-là, il paraît fou de prêcher un tel message ce matin. Mais je ne suis pas paniqué par rapport à ça, puisque l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui se croient sages dans ce monde. Mais pour nous qui sommes chrétiens et qui nous ne croyons pas sages du tout, mais qui comptons sur la sagesse de Dieu, nous croyons que c'est ce qu'il faut pour l'homme et c'est ce vers quoi nous devons nous diriger. Vous connaissez les évangiles? Vous connaissez la parabole du bon samaritain? C'est l'exemple même de ce à quoi Dieu nous appelle lorsque nous rencontrons un besoin, quelqu'un qui est dans le besoin. Vous connaissez la parabole du jeune homme riche, où il croit avoir accompli tous les commandements, mais il a oublié les deux principaux. Il n'aime pas Dieu de tout son cœur, toute son âme, et il n'aime pas son prochain comme lui-même. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 16, c'est un texte qu'on lit régulièrement ici. Et je dis toujours que c'est incroyable comment sont écrits et comment est écrit la Bible et comment ont été divisées les morceaux de la Bible en versets en partie parce que vous retrouvez, vous connaissez Jean 3,16. Est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Ah, vous pouvez me le dire? Voilà, c'est bien, Stécy. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ça parle de la croix où Dieu a donné son Fils pour nous sauver, par amour. Et dans 1 Jean 3,16, regardez ce qu'il est dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Hop, renvoie à Jean 3,16. Mais dans Jean 3,16, c'est bien parce que c'est tout pour nous. Hein? J'ai reçu l'amour de Dieu. Oh! Dieu ne m'a pas jugé, même au verset 17. Il n'est pas venu pour me juger, il est venu pour me sauver. Oh, merci Seigneur. Mais là, regardez ce que Jean ajoute. Ouais, ok, on a reçu cette grâce de Jean 3,16. Mais nous aussi, nous devons juste aimer nos frères. C'est ça qu'il écrit. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ah, là, c'est un peu plus difficile que quand on dit juste aimer. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Ça nous engage, là. Et c'est tellement important. C'est tellement important. J'ai tendance à dire, je me trompe peut-être, c'est mon avis personnel, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai tendance à dire que le plus puissant des moyens d'évangélisation dont nous disposons, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Faites venir un grand évangéliste, quelqu'un qui prêche super bien, si on est tous en guerre les uns avec les autres, faut pas rêver. Hein. Mais qu'un jour, déjà, on est bien à Colomiers, je me plains pas, mais on peut aller beaucoup plus loin. Mais qu'un jour, on vive à 100% 1 Jean 3,16. Est-ce que le monde ne va pas être interpellé par notre attitude? C'est certain qu'il le sera. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire en donnant votre vie. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Que Dieu nous donne de mettre en pratique le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pas seulement juste « Ouais, il est sympa, on se voit de temps en temps ». Non, non, être capable de donner sa vie, de faire des sacrifices. On ne vous demande pas de vous tuer. Hein. Mais donner sa vie, ça veut dire être capable d'abandonner des choses, de me priver. Voilà, moi j'ai mon petit emploi du temps qui est prévu et là, il y a quelqu'un qui a besoin. Qu'est-ce que je fais? Ah non, j'ai pas le temps. J'ai mon programme. Ou est-ce que je suis capable de laisser mon programme pour aller m'occuper de celui qui a besoin? C'est ce qu'a fait, c'est la parabole du bon samaritain. Hein. Les hommes religieux, le lévite, le sacrificateur, ils avaient un programme. Ils ont vu ce gars, ils ont dit, oh, pas le temps. Samaritain, qui était la dernière personne à laquelle on aurait pensé, lui, il a laissé son programme de côté, il a pris le temps de s'occuper. Amen. On a vraiment besoin d'un changement radical dans nos têtes, surtout nous les Français. Hein. Nous les Français, on a nos emplois du temps, tout est calé. Hein. Tout est calé. Dès qu'on bouge un petit truc, ouah ! On a besoin d'un changement radical et dire, ben, je prends le temps, tant pis, je ne ferai pas ce que j'avais prévu, je prends le temps. Parce qu'il n'y a pas de hasard, cette personne, elle est là, elle a besoin. Amen. La deuxième chose qui consiste à être le gardien de son frère, c'est conduire son frère vers le salut. Quand je dis cela, je veux rappeler une chose importante. Nous n'avons aucune obligation de résultat quand nous essayons de conduire les gens vers le salut. Nous n'allons pas prendre les gens et les secouer en leur disant « Maintenant, tu vas devenir chrétien. » Nous avons juste obligation de leur partager le message de l'Évangile. de leur dire ce que Jésus a fait pour eux. Et une fois qu'on a fait ça, on a rempli notre devoir d'amour du prochain. Comment? On l'a vu dernièrement, on l'a vu avec le dernier pilier, le fondement, un des fondements de l'Église, l'évangélisation. Comment on peut laisser quelqu'un dans la galère à côté de nous alors qu'on connaît la solution pour qu'il sorte de la galère? Ce serait fou. On l'a vu avec quelqu'un qui aurait inventé le remède contre le cancer et qui le dirait à personne. Ou le petit enfant qui a trouvé la sortie de la grotte et qui ne le dit pas à ses amis qui sont perdus dans la grotte. Nous avons une obligation d'avertir, de mettre au courant, d'informer. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Si vous dites à quelqu'un, j'ai un remède contre le cancer, et là, le cancer, il ne veut pas prendre le médicament, après, c'est sa responsabilité, c'est plus la vôtre. On est d'accord? Lisons ensemble ce que dit Jésus. Matthieu 18, versets 10 à 15. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Cette expression revient souvent, vous allez le voir, ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. C'est extraordinaire ces paroles. Si ton frère a péché, tu dois l'avertir. Tu dois l'avertir pour le gagner, pas pour le casser en deux. Tu sais, il y a des gens qui me disent, oui, il est écrit que si mon frère a péché, je dois aller le voir. Alors ils y vont et voilà, brum. Et alors l'autre, après, il repart. Non, il est parlé de gagner son frère ou sa sœur. C'est lui parler avec beaucoup d'amour. Et ça, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, vous savez, on ne sait pas faire. Hein. On va toujours avoir la parole qu'il ne faut pas. Mais si on y va en priant avant, rempli de l'Esprit de Dieu, et moi j'aime ce passage parce qu'il a dit « Reprends-le entre toi et lui seul ». Ça, c'est l'attitude spirituelle de celui qui aime. Celui qui aime, il ne va pas crier sur les toits quand il voit son prochain qui commet une erreur. Oh, vous savez pas ce que j'ai vu? Oh, horrible. Non, mais en plus, c'est un des responsables. Oh. Et allez, on répond. Au lieu d'aller voir la personne, c'est la personne qu'on doit aller voir. Et après, on n'en parle pas. On va pas dire, ah, je suis allé voir un tel, hein, je lui ai dit, c'est quatre vérités, il en avait besoin. Hein. Non, non, non. Ça reste entre lui et moi, ou entre elle et moi. C'est pas facile à faire ça, hein, reconnaissez. Pas facile de garder les choses et ne pas répandre. Ça c'est l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est l'amour de Dieu en nous. On a une responsabilité vis-à-vis du salut des autres. Le salut, ce n'est pas qu'une affaire individuelle. Bien sûr que, au bout du compte, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, au bout du compte, chaque personne va décider pour son salut. Mais Paul dit, par exemple, si personne ne prêche, comment sauront-ils? Donc ça veut dire qu'on a quand même une responsabilité. Notre responsabilité, elle est de communiquer la bonne nouvelle, de montrer le chemin à notre prochain. Tous ceux que le Seigneur a placés sur notre route, y compris nos voisins, nos collègues de travail, ceux avec qui c'est dur d'aller pour leur dire « Moi, je connais Jésus et il est le chemin pour toi ». C'est dur de faire, mais il faut le faire. C'est notre responsabilité. Alors, tu vas me dire que tu es timide? Et je comprends qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas facile, mais alors tu demandes le secours du Seigneur. ton collègue de travail va scotcher que toi, le plus timide ou la plus timide du service, tu viennes lui parler du Seigneur. Waouh! Il est venu me parler. Ouh! 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Tout cela, prier pour tous les hommes, c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre rôle, c'est de témoigner, mais c'est aussi de prier pour. Priez pour les gens que Dieu met sur votre route. Priez pour eux. Priez pour vos ennemis. On a parlé de collègues de travail, on parle de voisins. Il y a des fois, vous avez des sentiments meurtriers qui remontent. Quand un voisin fait du bruit jusqu'à 1 h du matin dans son jardin et fait la fête avec les copains et vous n'arrivez pas à dormir. Quand votre collègue de travail raconte tous les problèmes que vous avez à votre supérieur, etc., etc. On a des envies de meurtre. Mais le bon réflexe, c'est de prier pour cette personne et demander au Seigneur de la bénir. Parce que si le Seigneur la bénit, vous serez béni. Oui ou non? Vous n'allez pas faire comme ceux qui ont râlé parce que Jésus avait reçu Zachée, hein? On fait, oh, quoi, il reçoit un pécheur. Et après, quand Zachée est venu les rembourser, ils ont dû dire, ah, mais finalement, c'était bien qu'il aille dans la... que Jésus aille dans sa maison. Et oui, si Jésus bénit vos ennemis, vous allez être bénis. Ce ne seront plus vos ennemis au bout d'un moment. Amen. Troisième point, être solidaire. Être solidaire entre nous. C'est pas juste la solidarité, voilà, c'est bien, la banque alimentaire, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais vous savez bien que ça suffit pas. Vous savez bien que ça suffit pas. C'est pas un colis tous les 15 jours qui règle le problème de la pauvreté de certains au milieu de nous. Être solidaire en toutes circonstances, être solidaire de son prochain. Et je ne parle pas que des frères et sœurs de l'Église. Être solidaire de son voisin, parfois. Parfois, les non-croyants nous montrent l'exemple. Les non-croyants font mieux que les chrétiens. Oui, vous en êtes rendu compte ou pas? Il y a des associations caritatives qui sont athées et qui font un travail extraordinaire pendant que les chrétiens dorment. Et on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour changer nos mentalités, encore une fois, individualistes. Je vais lire le passage qu'on ne peut pas éviter dans cette prédication ce matin. Il est dans Matthieu 25, versets 32 à 46. Il est parlé de ce qui va se passer à la fin, au jugement dernier. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, devant Jésus, le Fils de Dieu. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous voyez l'expression qui revient, les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. C'est à moi que vous les avez faites. Si on pouvait se rendre compte de ça, mes frères et sœurs. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voyez quel sort est réservé à ceux qui diront à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Attention, hein. Qui n'a pas prononcé cette phrase ?« Mais lui, il a qu'à se débrouiller, ce n'est pas à moi de m'occuper de sa vie. » Attention, réfléchissons bien. 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai listé tous les versets dans le Nouveau Testament qui parlent de l'attention qu'on doit avoir pour les frères et sœurs. Je ne peux pas vous les citer tous parce que sinon ça serait vraiment trop long. J'en ai sélectionné quelques-uns. 1 Corinthiens 12, 25-27, vous le connaissez. Si un membre souffre, c'est uniquement le verset 25, pardon. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ça une famille en fait. C'est ça une famille. S'il arrive quelque chose de difficile à quelqu'un, on est tous avec lui. S'il arrive quelque chose de bien, on est tous avec lui aussi. On n'est pas jaloux. On n'est pas là, c'est toujours lui qui a des bonnes nouvelles. Ah, notre nature, elle a besoin d'être... Philippiens chapitre 2, verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Est-ce que c'est mes intérêts toujours qui priment ou si ceux des autres ? 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 à 10. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » On revient à Matthieu 18, hein, où on ne va pas crier sur les toits quand quelqu'un a péché. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Hospitalité sans murmure. C'est-à-dire, non, encore à ce point de celle-là. Encore. Oh, comment ils se sont comportés. Ah, on a fait l'effort de les recevoir, et ben bravo. Non, l'hospitalité sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient dans les Écritures, qui est formel. Ce que Dieu nous donne, il nous le donne pour le mettre au service des autres. Ah ! Ce que Dieu me donne, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ok ? Ça va ? Galates chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. » Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il n'est plus parlé de la loi de Moïse, il est parlé de la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas une mince affaire, ça. Hein. Parce que déjà, pour porter le fardeau de quelqu'un d'autre, il faut d'abord que l'autre vienne partager le fardeau. Or, là aussi, on a une espèce de réflexe hein, dans notre société du 21e siècle. J'ai un problème. Surtout, vous en parlez à personne. C'est bien. On demande pas, la Bible ne demande pas d'étaler ses problèmes à la terre entière. Mais c'est tellement bien d'avoir un couple, un frère, une sœur, quelqu'un dans l'église qu'on puisse aller voir et dire, voilà, en ce moment, c'est difficile pour moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? On a besoin, vous ne croyez pas qu'on a besoin de grandir là-dessus ? Hein ? Si je demande, si vous avez un sondage, qui c'est qui fait ça au milieu de nous. Qui c'est qui va voir quelqu'un en disant « j'ai un problème, viens prie avec moi ». Souvent, les nouveaux convertis le font, mais après, quand on est... C'est important. Éphésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. » Compatir, ça veut dire se mettre à la place, essayer de se mettre à la place. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On ne peut pas parler de l'amour du frère, du prochain, sans parler de la question du pardon. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que ce n'est pas une problématique, la question du pardon ? Dans les familles. D'abord dans les familles. Des choses qui ne sont pas pardonnées. Dans l'Église. Des choses qui ne sont pas pardonnées. Dans nos lieux de travail. Une histoire lointaine avec un collègue, une collègue, un supérieur ou un inférieur. Et on n'a pas réglé ça. On n'a pas réglé ça. Et franchement, je me le dis à moi-même et je le dis à chacun de nous. Combien de fois j'ai cru ou j'ai vu en face de moi des gens qui ont cru qu'une situation était réglée alors qu'elle ne l'était pas. Et on est tous sincères. On dit c'est réglé, il n'y a plus de problème. Sauf que quand ça nous revient dans la figure par un événement quelconque, plaf, tout remonte. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que pasteur, combien de fois j'ai parlé avec des personnes, mais non, t'inquiète pas Luc, c'est réglé. Et puis survient un problème et pof, on voit que la manière dont la personne réagit veut dire qu'il n'a pas réglé le problème. Et ça ne ça remet pas en question la sincérité de la personne. Elle croit que le diable est malin. Il dit, mais c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. Non, il faut régler les choses. Plus tôt vous réglez les choses, plus c'est facile. Plus vous laissez traîner, plus c'est compliqué. Donc réglez les choses rapidement. N'acceptez pas le fait que vous n'ayez pas pardonné à quelqu'un. Ne l'acceptez pas. Vous pouvez reconnaître que c'est difficile pour vous de pardonner, ça, il n'y a pas de souci, Dieu le comprend. Suivant ce que vous avez vécu, tout le monde et Dieu en premier est capable de comprendre que c'est difficile de pardonner. Mais dites, je veux pardonner. Seigneur, aide-moi, tu vas me faire parcourir un chemin jusqu'à ce que je pardonne. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est comme si vous aviez déjà pardonné. Dieu va vous traiter comme si vous aviez pardonné. Parce qu'il sait qu'il vous faut du temps. Il sait qu'il faut du temps. Il y a des choses qui sont terribles, hein, que des gens ont vécues. Donc c'est facile de leur dire, faut pardonner maintenant. Non, Dieu nous donne le temps. C'est juste, au départ, il veut savoir, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on dit cette phrase terrible, jamais je pardonnerai. Vous l'avez entendu cette phrase ? Moi, je l'ai entendue dans la bouche de certaines personnes. Jamais je pardonnerai. Quand j'entends ça, je dis, ah, mon cœur se serre en me disant, mais c'est terrible de dire ça. Parce que ça veut dire que cette personne, elle est, si elle ne réagit pas, elle est coincée pour la vie. Alors que le fait de pardonner, pourquoi Dieu insiste pour qu'on pardonne ? Ce n'est pas pour la personne en face, c'est pour nous. Ça va nous libérer. Amen. Je conclue avec deux textes. Un qui nous met en garde et un qui va nous encourager. 1 Jean chapitre 4, verset 20-21. Vous connaissez ce passage. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est pas simple la Bible quand même. Voilà. Donc ça c'est juste si quelqu'un se ment à soi-même ce matin disant qu'il aime Dieu alors qu'il a de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un, il faut qu'il arrête parce qu'il est en train de se mentir à lui-même. Et Dieu l'appelle à réagir ce matin. Et le texte qui va nous encourager tous, c'est le psaume 133. Un psaume extraordinaire de David qui dit ceci. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là, j'entends déjà des pensées qui disent, Ouais, ben moi, si vous saviez ce que j'ai vécu dans une église, il n'était pas doux de demeurer ensemble. Et là, je vais vous répondre une chose. Qui, dans sa famille, qui, dans une église, n'a jamais rencontré un problème relationnel? Mais personne. Pourquoi? Parce que la famille ou l'église est constituée d'êtres humains imparfaits. Donc que de temps en temps il y ait des problèmes, et même des problèmes graves, il ne faut pas que ça nous fasse monter dans les tours, mais nous qui sommes spirituels, on va se placer devant Dieu pour bien gérer cette difficulté. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, ce n'est pas qu'il n'a jamais de problème relationnel, c'est qu'il ne les gère pas du tout de la même manière. Il ne voit pas les choses du tout de la même manière. Et l'issue va être bien plus extraordinaire. Donc moi, je veux répéter ici, même si j'ai connu des choses difficiles dans mes relations avec des frères et des sœurs, j'ai connu, depuis 40 ans que je suis chrétien, j'en ai connu des choses difficiles. Je veux dire de tout mon cœur, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je ne me force pas à le dire, je vous assure. Je suis convaincu et je suis heureux de demeurer avec vous ce matin. C'est une joie pleine et entière d'être avec mes frères et sœurs ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Et regardez ce qu'il est dit ensuite. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oh! À quoi est comparée la communion fraternelle? Vous avez vu ça un peu? Le bienfait de la communion fraternelle est comparé au bienfait du Saint-Esprit. Waouh! Je ne sais pas si vous avez remarqué cette subtilité-là. C'est-à-dire, je peux me faire autant de bien par le fait d'avoir rencontré, passé du temps avec un frère, une sœur, avec mes frères et sœurs, que d'avoir eu un temps dans la présence du Saint-Esprit. Amen! Et oui, mais ça rejoint ce qu'on a dit au départ, hein. L'amour de Dieu, l'amour du frère, de la sœur, c'est le même niveau. Et ce qui me réjouit, qui m'encourage et qui m'aidera toujours à persévérer dans le fait que je dois me réunir avec mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive, c'est qu'il est dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous êtes au bon endroit ce matin, parce que vous avez décidé de vous réunir entre frères et sœurs, comme tous ceux qui l'ont fait dans d'autres églises. Hein. Quand je dis le bon endroit, ce n'est pas Colomiers, unique endroit sur terre. Mais à chaque fois que les frères et sœurs se réunissent ensemble, ils sont au bon endroit. C'est là que Dieu les veut. Et c'est là que Dieu veut envoyer la bénédiction. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Vous êtes content d'être entre frères et sœurs ce matin? Content de cette communion fraternelle? S'il y a encore une ombre, quelque chose, j'aimerais vraiment que vous puissiez déposer ça au Seigneur ce matin. Je ne juge personne, je comprends que pour certains c'est difficile. Ça peut être difficile d'accepter des frères et sœurs, des points de vue différents, des choses, parfois de passer au-dessus des paroles blessantes, des choses. Je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Je suis comme vous et je vis les mêmes choses que vous. Hein. Mais demandez au Seigneur ce matin une chose. Ce qui doit prévaloir dans mon cœur, c'est d'aimer la communion fraternelle, d'aimer mes frères et sœurs, d'aimer mon prochain, parce que ça ne s'arrête pas à l'église. On va dire, ah lui, il est dans le besoin, mais il n'est pas chrétien, donc... Non, non, ça c'est chaque homme, chaque femme que Dieu met sur notre route. Est-ce qu'on est prêt à relever le défi? Amen. Le défi de 1 Jean 3,16. D'aimer notre prochain au point de donner notre vie pour lui. Amen. Seigneur, ensemble, nous nous tenons devant toi. Moi, le premier, je me dis devant ce verset, oh là là, comme je suis loin du compte. Mais c'est normal puisque on se compare à ton amour, à toi, Jésus-Christ. Cet amour parfait, sans ombre, sans tache, Seigneur, j'en suis bien loin. Mais Seigneur, c'est le modèle que je dois atteindre. Alors je ne veux pas dire c'est trop loin pour moi, c'est inaccessible. Non, je veux marcher pour m'approcher de ce modèle. Je veux que tu œuvres par ton esprit dans ma vie pour que je me rapproche encore davantage de ce modèle. Seigneur, je réclame ton secours dans ma vie. Nous réclamons ton secours dans nos vies à chacun pour pouvoir mettre en pratique ce que dit ta parole et ce que nous a transmis l'apôtre Jean, que nous soyons capables d'aimer notre prochain au point de donner notre vie pour lui. Seigneur, merci parce que tu fais des miracles dans nos cœurs, des miracles de transformation. Nous ne sommes pas là en train de prier dans le vide. Nous croyons que la prière est efficace et que tu vas œuvrer dans nos cœurs à chacun, chacune. En tous les cas, dans le cœur de tous ceux qui désirent aller plus loin. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas dire « suis-je le gardien de mon frère ?» Nous voulons te dire « Seigneur, montre-moi comment être le gardien de mon frère. » Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu.